Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Positron. Positron, c'est l'émission où on vous recommande quelque chose de sympa chacun. On est trois, donc ça fait trois trucs cool. Et comme on fait l'émission à peu près en 20 minutes, ça fait trois trucs cool en 20 minutes. Les trucs cool, c'est des produits culturels, de la musique, des livres, des BD, des films, ce genre de choses. Et on espère, le but en tout cas, c'est qu'on va vous donner envie, envie d'aller regarder, lire, écouter les choses qu'on vous recommande. On a encore trois produits qui sont plutôt sympas. J'espère qu'ils vous plairont. Et pour les présenter, il y a moi d'une part, je suis Patrick Béja, je ne me suis pas présenté en début d'émission, ça ne se fait pas. Et il y a aussi Christophe Ponsol et Olivier In The Blix, c'est ton nom de famille, hein, si je ne m'abuse, In The Blix.
Ouais, c'est assez compliqué d'aller chercher les colis quand ils sont adressés à In The Blix, j'avoue. Mais non, c'est pas mon nom de famille c'est Lubin.
Ah, oh, ben, c'est beaucoup
plus
moins...
facile à porter, hein.
Ben oui, forcément.
Ben oui.
Bon. Mais en tout cas, je compte sur toi pour émerveiller. Je fais plein de compliments, hein, sur cette troisième session de quatre épisodes de Positron, là.
Ben, c'est normal. Quand on voit qui est passé avant nous, bon, tu peux être émerveillé, quoi.
Ouais. Forcément. Oui, c'est ça, je comprenais pas bien pourquoi, j'arrivais pas à définir. Et puis là, oui, effectivement, quand tu
loin,
le dis comme ça.
Loin de nous l'idée de négliger nos, enfin, de rabaisser nos petits camarades, mais bon, quand même, on peut faire que
c'était
mieux, quoi.
Non, mais je suis d'accord, c'est-à-dire que, bon, le premier groupe était pas stellaire non plus. Le deuxième, ça allait sur le moment. Je me suis dit, c'est pas trop mal. Mais enfin, on se rend compte, là, depuis un épisode, que le niveau est quand même un petit peu relevé, quoi. Ah bah, c'est incontestable. D'ailleurs, les auditeurs... Oui, c'est ça, les auditeurs, je pense qu'ils sont d'accord. Venez nous le dire sur Twitter, par exemple. Hein, vous pouvez nous confirmer que là, ça devient quand même un autre niveau de qualité. D'ailleurs, justement, en parlant de qualité, oui, je vous propose de lancer l'émission avec ma première...
Ah, je crois que je viens de pouvoir passer une émission.
Ça va le faire à chaque fois. Donc, moi, je commence avec un album. Alors, c'est de la musique. Je plaisantais justement avec notre camarade Philippe Gage pendant les épisodes précédents, en disant qu'il aimait la musique un petit peu énervée. Et moi, j'ai parlé de beaucoup de choses un petit peu oniriques, un petit peu qui nous transportent, ce genre de choses. Eh ben, je tenais à montrer à nos auditeurs que je ne suis pas que cette sorte de garçon rêveur qui se perd dans les voix suaves et sensuelles des chanteurs et chanteuses mielleux. Mmh. Et je vais vous parler d'un groupe que je pense vous connaissez. J'espère, parce que c'est un groupe extrêmement qui a connu un énorme succès il y a quelques années. C'est Arctic Monkeys. Mmh. Avec leurs deux premiers albums, j'ai du mal à différencier les deux, en fait. Celui que je recommande, c'est Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Je vais le refaire avec l'accent. Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Ça veut dire ce que les gens disent
que
je suis.
Quoi que les gens disent de moi.
Pas exactement. Ce que les gens disent que je suis, c'est ce que je ne suis pas. C'est ça. Et il y a le second qui s'appelle Favorite Worst Nightmare, mon pire cauchemar préféré. Et c'est un petit peu deux albums qui en sont presque un. Ils sont tellement dans la continuité l'un de l'autre que on peut presque, si vous aimez le premier, vous aimerez le second et vice versa. Après ça, avec Humbug notamment, ça change beaucoup de style. Et c'est pas forcément moins bien, mais c'est différent. Et à vrai dire, c'est peut-être pas mal qu'ils aient cassé avec leur style, parce que sinon ils auraient été un petit peu catalogués, ils auraient fait systématiquement la même chose. Bref, celui que je recommande, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, c'est un album un petit peu énervé, pour le moins, et j'en reviens à ce que je voulais dire, c'est-à-dire que parfois j'aime de la musique un petit peu énervée aussi. Le groupe est sans doute l'un des premiers groupes qui a vraiment connu sa popularité grâce à Internet. Ils ont explosé autour de 2007-2008, je dirais. C'est une bande de jeunes, mais vraiment, ils étaient presque adolescents quand ils sont arrivés sur le devant de la scène. Ils avaient autour de 18 ans, si je ne m'abuse.
17 ans même. Ouais.
C'est ça, hein, 17-18 ans. Et c'est des Anglais qui ont un accent absolument magnifique, d'une part. Ils parlent avec presque un patois qui est très très particulier. On pense notamment, enfin bon, il y a plein de chansons où ça s'entend, et ils sont, comment dire, j'aimerais bien pouvoir passer, vous savez quoi, je vais essayer. La semaine dernière,
allez,
on disait la SACEM machin.
Allez.
Je vais être fou. Allez,
sortons. Regarde, vas-y.
Alors, Arctic Monkeys, il est évidemment sur mon iPod en permanence. Je vais y arriver. Il faut faire une recherche parce que là, j'y arrive pas en fait.
Tu veux dire que pendant ce temps-là, il faut que Olivier et moi nous meublions.
Par exemple, non, c'est bon.
Alors, mon cher Olivier, qu'est-ce que tu as pensé du dernier catalogue IKEA?
Oh là 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 là. Bah, oh moi, tu sais, dans le catalogue IKEA, je regarde toujours les mêmes pages, hein. Tu sais lesquelles.
Les pages centrales, bien entendu.
Alors, on va faire un petit essai à partir de l'iPod. Donc, comme je disais, c'est un groupe vraiment énervé. C'est des rythmes de batterie effrénés, de la guitare électrique. Enfin, c'est du bon vrai rock. Je sais même pas si j'ai dit le nom rock, mais c'est du vrai rock classique, énervé, rapide. Bon, là, c'est pas le morceau le plus énervé, forcément. Mais... Et il parle toujours de sujets assez
sociaux
et presque triviaux. Là, par exemple, il parle de cette soirée où il voit une fille qu'il adore, et est-ce qu'il va essayer d'aller l'aborder ou pas, ou est-ce qu'il va oser y aller, comment il va danser, est-ce qu'il va avoir l'air d'un con. À un moment, il y a une autre chanson où il parle du fait qu'il rentre en boîte ou qu'il se fasse
Bet you look good on the dance floor,
par exemple.
I bet you look good on the... Bah, c'est le morceau le plus connu,
ouais, qui a fait connaître.
Alors, c'est pas non plus du death metal, hein, mais... Vous entendez bien ou c'est du son pourri là?
Non, ça va. On manque un petit peu de basse, mais.
Un peu de cran.
Ouais, quand même. Mais bon, ça donne le ton quand même. Hein. On va en essayer une autre. Hop. Voilà, ça voilà. C'est un peu plus énervé. Je pense que le son passe pas très bien, hein, sur un morceau comme celui-là.
Le riff là,
ouais. Bon, bref, Brian qui réussit très bien à ne pas essayer trop dur. Voilà, donc c'est Arctic Monkeys. Je répète le nom des deux premiers albums. Donc c'est Whatever People Say I Am, That's What I'm Not et Favorite Worst Nightmare. C'est du rock libératoire. C'est quand on est un petit peu énervé, on a un petit peu envie d'exorciser son stress. C'est excellent. Et en plus, c'est si on comprend les paroles, ce qui est pas évident parce qu'ils ont un accent terrible, c'est exotique, je dirais.
Ouais, à éviter. Donc, en voiture.
Oh, oui. C'est oui, peut-être, oui. Ça, on a oui, peut-être tendance à trop appuyer sur l'accélérateur.
Ouais, ouais,
c'est
ouais.
Vrai.
Je confirme.
Olivier, de quoi nous parles-tu?
Ben, moi, je vais vous parler d'un film.
D'accord.
Un film qui, hélas, n'a pas connu les joies d'une sortie cinéma, et c'est scandaleux, vu le nombre de d'aubes internationales qui sortent au cinéma. Celui-ci est sorti directement en vidéo. Ça s'appelle Fantôme, PH, hein, PHANTOM. C'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Todd Robinson, qui est pas très très connu en tant que réalisateur, mais il y a une distribution dans ce film qui est assez hallucinante, et c'est pour ça que je comprends pas qu'il ait pas eu la faveur d'une sortie cinéma, puisqu'on a dedans David Duchovny, hein, déjà.
Fox Mulder, voilà.
Fox Mulder, exactement, qui là est passé à l'est, hein, puisque il joue un agent du KGB. Il y a Ed Harris dedans.
Alors Harris, là, c'est déjà du lourd, quoi.
Ah oui, c'est du lourd. Il y a pas mal dans ce film, pas mal d'acteurs qui sont issus qui ont fait des films, mais pas toujours très marquants, mais surtout des séries TV, puisqu'il y a aussi Lance Henriksen, pardon, dedans, qui jouait Bishop dans Aliens, ouais, entre autres, et puis qui a joué aussi dans une série qui s'appelait Millennium avec Chris Carter, enfin de Chris Carter, celui qui a fait X-Files. On a aussi qui est-ce qu'on a dans le casting il y a William Fichtner. Alors William Fichtner, peut-être que le nom ne vous dit rien, mais si vous voyez sa photo, vous allez vous dire, mais oui, mais c'est bien sûr, je le connais, je connais que lui, qui est un acteur qui a joué.
C'est plein
aussi
de bons acteurs, quoi.
Ouais, c'est plein de bons acteurs. Alors globalement, l'histoire, c'est ça se passe dans un sous-marin. C'est un peu dans la lignée de À la poursuite d'Octobre Rouge, etc., qui était un excellent film, À la poursuite d'Octobre Rouge. Et le film est vraiment excellent. L'histoire, un petit peu comme Octobre Rouge, un capitaine qui était à la retraite, qui devait s'arrêter, surtout va être obligé de reprendre un sous-marin nucléaire avec en plus des agents du KGB, bon, qui sont là pour surveiller, ok, donc il reprend ce sous-marin et on lui demande de balancer des missiles nucléaires sur les États-Unis. Donc évidemment, y a des choses qui se passent pas très catholiques à l'intérieur du sous-marin. Et donc c'est un huis clos, hein, évidemment.
Pas très catholique, tu veux dire genre science-fictionnesque ou...
Pas du tout, pas du tout. Alors il y a un côté un petit peu parfois, je vais pas dire fantastique, parce qu'en fait le capitaine a un léger problème psychologique qui lui fait avoir des hallucinations, mais il y a pas
c'est
du
pratique
tout
pour un capitaine de sous-marin nucléaire.
Ouais, mais il devait être à la retraite, nom de Dieu.
Oui, d'accord.
Donc voilà. Et
en fait, il est claustrophobe, ce qui n'est pas vraiment.
Voilà. Là, jusqu'ici, il se retenait. Et donc, bon, après, tout se déroule. Et le film est vraiment très, très prenant. C'est un huis clos vraiment formidable. Il y a une tension pendant tout le film. C'est extrêmement bien filmé. Je trouve, c'est extrêmement bien joué. Et avec les acteurs qu'il y a dedans, c'est pas très, très étonnant. Et donc voilà. Fantôme, regardez-le, c'est vraiment un bon film. Alors, il est sorti en Blu-ray depuis le mois d'août, donc vous pouvez l'acheter sur les différents trucs ou faire autre chose. Enfin, en tout cas, vous le procurez et le regardez. C'est un excellent film.
Super. Voilà. Donc c'est un film pour tous, hein, pour tous.
Ah oui, pour tous, oui.
D'accord. Oui, moi j'ai oublié de préciser le groupe de rock en question, hein, les Arctic Monkeys. C'est quand même pour les fans de rock. Hein. Faut pas le donner à votre grand-mère, elle risque d'avoir un petit choc. Christophe, peux-tu conclure l'émission avec un conseil de qualité?
Absolument, un conseil de qualité en matière de série. Une série assez jubilatoire, enfin moi que j'ai vraiment adoré, qui s'appelle House of Cards. Donc je vais vous raconter juste le pitch de départ pour vous situer un petit peu ce que c'est. Ça raconte l'histoire de Frank Underwood. Frank Underwood, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le majority whip, c'est-à-dire le fouet de la majorité. Ça vous donne déjà une petite image du bonhomme. Et donc lui, il est à la tête du Parti démocrate. Un majority whip, si vous voulez l'équivalent à peu près en français, ce serait grosso modo le premier secrétaire d'un parti. Vous voyez? Premier secrétaire du PS ou premier secrétaire ou ou je ne sais pas par si l'AMD, on dit premier secrétaire d'ailleurs à l'UMP.
Je crois que c'est le président de l'UMP.
Président de l'UMP. Voilà. Bon, en gros, c'est lui qui est le grand patron du parti.
Si je ne m'abuse, c'est pas exactement ça. Hein. Je crois que c'est plutôt le membre du Parlement qui est censé gérer le groupe parlementaire.
Il est censé,
Donc c'est un petit peu celui, parce que évidemment, dans le jeu politique, les votes sont extrêmement importants et au Parlement, c'est lui qui est censé s'assurer que tout le monde vote comme le parti veut qu'il vote.
Exactement. C'est lui, en fait, le garde-chiourme, on va dire.
Voilà, c'est
ça. C'est censé donner des coups de fouet, donc c'est pour ça qu'on dit majority whip, pour que tout le monde rame dans le même sens. Voilà. Au moins au sein de son parti.
Non, mais ça marche.
Voilà. Donc ce brave monsieur, il a largement contribué à l'élection du président des États-Unis, donc du Parti démocrate, en échange d'une promesse, celle de devenir secrétaire d'État une fois que son poulain serait arrivé à la tête de l'État. Et ben, promesse non tenue, puisque le président se rétracte et finalement le poste lui passe sous le nez, ce qui ne fait pas vraiment son bonheur et qui ne fait pas non plus le bonheur de sa femme à Frank Underwood, parce que sa femme elle est directrice d'une agence environnementale qui gère les problèmes d'eau et notamment qui fait des programmes de développement au pays.
J'ai l'impression que tu nous le vends pas très bien, hein, là.
Pardon, excuse-moi. Je vais revenir à l'essentiel. Donc, voilà, lui, il est vraiment pas très content.
Parce que tu vois, elle a de l'eau.
Voilà. C'est une écolo.
C'est pas vraiment une écolo.
Mais parce que c'est des pourritures, tous les deux. Des pourritures.
Donc lui, il est vraiment furax que le poste lui soit passé sous le nez. En plus, ça n'aide pas les affaires de sa femme, qui aurait bien eu besoin d'un appui gouvernemental pour faire passer certains de ses projets. Bon, bref, ils se sentent trahis tous les deux. Et Underwood va, dans sa tête de malade, va fomenter une espèce de trahison pour faire tomber celui qui l'a trahi, donc le président des États-Unis. Et pour ça, il va mettre en place, comme des pièces d'échiquier, une espèce de truc machiavélique,
de stratagème politico.
Et comme il a des dossiers sur tout le monde au niveau du Capitole, au niveau de la Maison Blanche, il connaît les travers de chacun, et donc il sait exactement où appuyer pour que ça fasse mal et comment manipuler les gens pour leur faire faire ce qu'il a envie de leur faire faire.
Ce qu'il faut préciser, je pense, c'est que la série est produite par Netflix, qui
J'allais
est une société.
Venir.
De... Ah pardon, vas-y.
Oui.
Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'était une série anglaise à la base.
Et j'y viendrai aussi.
Est-ce qu'il faut préciser?
Ok. Bon bah allez, salut les gars.
Vas-y, Christophe, on t'interrompt plus, pardon.
Donc voilà, donc pour arriver à ses fins, il se met également dans la poche une petite journaliste, il ne se la met pas uniquement dans la poche d'ailleurs, une petite journaliste assez ambitieuse qui va l'aider justement à faire éclater certains scandales et tout ça. Donc bon voilà, vous voyez un peu le personnage se dessiner, c'est quelqu'un d'assez peu recommandable, ce Frank Underwood. Eh bien, cette série est absolument, à mon sens, génial. Si vous vous intéressez un tant soit peu à la politique américaine ou à la politique même en général, parce qu'on peut transcrire quand même, enfin transposer à nos systèmes tout ce qu'on voit. On y voit tous les rouages du législatif avec les alliances d'un instant et puis les trahisons après, les relations avec les lobbies. Les relations avec les syndicats, par exemple, qui sont très puissants aux États-Unis, et puis les rapports entre la presse et les politiques, et puis cette donne qui a changé au niveau de la presse avec l'arrivée du web et des réseaux participatifs. On voit tous ces rouages-là, c'est vraiment très très bien, très très bien montré. Et même si vous n'aimez pas la politique, eh bien moi je vous conseille de regarder cette série, ne serait-ce que pour le jeu des acteurs. Parce que par exemple Monsieur Kevin Spacey, qui interprète donc Frank Underwood, il est juste monumental ce bonhomme. Il l'était déjà dans toute sa carrière, mais là je trouve qu'il a atteint vraiment des sommets. Il est cynique à souhait, son jeu est vraiment reptilien. Et il y a une super trouvaille de mise en scène qui est qu'à certains moments dans certaines scènes, il se tourne vers la caméra, il s'adresse directement à nous. Et il fait des apartés comme ça en disant bah voilà, je lui ai dit ça, vous allez voir, il va me dire ça. Et là il se retourne et effectivement la scène reprend et le mec dit exactement ce qui était prévu. Je trouve que c'est un super clin d'œil au public et on est dans sa tête avec lui, enfin on est vraiment complice de tous ses méfaits, c'est vraiment génial. Il y a aussi une très bonne surprise, c'est Robin Wright, que vous avez peut-être découvert il y a pas mal d'années maintenant dans un soap opéra qui s'appelait Santa Barbara. Oui. Et bien, heureusement, elle ne s'est pas arrêtée là. Robin Wright, elle a bien progressé.
Ouais, elle est très bien dedans.
Et elle est vraiment très, très crédible en femme de pouvoir également, elle aussi. Et le rapport entre les deux, qui sont vraiment deux êtres de pouvoir, qui sont obligés de cohabiter, mais qui sont dans un rapport de dominant-dominé en permanence. Et vraiment, je trouve... extrêmement.
Ouais, c'est en fait, j'ai dit c'est des pourritures tous les deux. En fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est juste comme tu dis, c'est des êtres de pouvoir qui sont ce qu'ils doivent être.
Exactement.
Pour fonctionner dans cet environnement en fait. Il y a pas tellement de
c'est des prédateurs, c'est-à-dire que il y a pas de sentiments. Et d'ailleurs, moi, je veux pas déflorer la série, mais il y a pas vraiment de sentiments entre eux, tu sens que c'est très complexe.
Ce qui les habite, c'est leur but de leur
ambition,
quête de pouvoir.
Voilà. Et très très bon acteur aussi que je ne connaissais pas, Corey Stoll, qui joue le rôle de Russo, qui est un jeune sénateur que Frank Underwood prend sous son aile pour essayer de le manipuler comme un pantin. Ouais. Et qui joue extrêmement bien. Il a plein de fêlures, ce garçon, et il joue vraiment vraiment très 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 bien. Et puis Kate Mara, qui joue Zoe Barnes, donc la petite journaliste aux méthodes de blogueuse. C'est assez marrant d'ailleurs de voir ces allers-retours entre des sites.
Je suis une journaliste, non, je suis une blogueuse.
Donc j'ai pas vraiment la déontologie d'une journaliste, mais j'ai c'est assez bien vu, je trouve. Ça m'a immédiatement fait penser, alors Patrick, je pense que tu l'as vu parce que tu en parles pas mal. Je sais pas si tu as vu cette autre série qui pour moi est vraiment fondatrice dans les années 90 qui s'appelle Profit.
Ouais.
Et le personnage d'Underwood, alors en 2013, et le personnage d'Underwood m'a immédiatement fait penser au personnage de Jim Profit.
Ouais, oui. Alors le problème, c'est que Profit. Le problème, c'est que Profit, c'est tellement vieux que que Jérôme Kainborg adore cette série.
Ouais.
Et pour moi, ça fait partie des excellents souvenirs d'il y a tellement longtemps que si tu la regardes aujourd'hui, c'est plus possible. Quoi.
Ça a très très mal vieilli. Je suis d'accord, mais le.
Mais concluons sur
l'ambiance, voilà.
Ouais, sur House of Cards.
Bah oui. Alors, faut quand même préciser quelque chose d'important. C'est pas n'importe qui réalise House of Cards. C'est quand même Monsieur David Fincher, donc le réalisateur de Fight Club, The Game, Seven, Alien 3, Benjamin Button, The Social Network. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc c'est pas un réalisateur d'un épisode de Maggie, hein. et il s'est également adjoint les services d'un autre réalisateur de cinéma, puisque il y a Joel Schumacher qui fait deux ou trois épisodes, donc c'est vraiment une série qui pourrait presque passer dans des cinémas, voilà. Et donc House of Cards, ça a été tiré d'une, comme l'a dit Olivier, ça a été adapté d'une mini-série anglaise qui s'appelle House of Cards aussi, qui se passe à la Chambre des Lords en Angleterre et qui était une mini-série en 4 épisodes qui a été diffusée en 90. Voilà.
Était tirée d'un bouquin.
D'un bouquin de Michael Dobbs, qui lui-même était ex-secrétaire général du Parti conservateur ce coup-ci.
Quelle culture.
Juste pour conclure, il aura quand même fallu 5 ans pour que le projet House of Cards américain voit le jour. C'est l'agent de Fincher qui a vu la série anglaise et qui en a parlé au réalisateur, qui a tout de suite accroché, qui a voulu le faire. Ils ont été proposés le projet à plein de chaînes de câblées, donc et pas des moindres, HBO, Showtime, AMC. Et puis ils sont tous fait claquer la porte au nez à chaque fois, et le seul qui a eu vraiment les balls, si j'ose dire, de les signer, et de signer en plus pour deux saisons, c'est la plateforme de téléchargement Netflix.
Ouais. C'est pas tout à fait ça. Ils sont pas fait refuser ils sont de but en blanc.
Netflix a pris tout le monde de vitesse.
C'est ça, c'est voilà. Que les autres étaient en train de dire bon ben vous nous faites un pilote et puis on va voir ensuite ce qui est la procédure classique hein, dans ce monde-là. Et c'est vrai que Netflix est allé les voir, il leur a dit bon ben écoutez on vous achète deux saisons. C'est sûr qu'en même temps avec David Fincher, Kevin Spacey, etc., etc., ils prenaient pas les plus gros risques de l'histoire sur la série. Ouais. Mais c'est vrai que le résultat est quand même hautement de qualité continue.
D'ailleurs, Kevin Spacey coproduit la série. Et est-ce que tu sais pourquoi il a été sélectionné, outre le fait qu'il a mis des billes dans la production Kevin Spacey? Eh bien, tout simplement parce que il avait déjà travaillé avec Fincher sur Seven. Mm-hmm. Souvenez-vous. Et puis aussi parce que le boss de Netflix, qui avait quand même son mot à dire dans la production, est fan de statistiques. Et en fait, il s'est aperçu que le nom de Kevin Spacey revenait très très souvent dans les programmes les plus téléchargés sur Netflix. Donc il s'est dit tiens ce garçon est bankable. Voilà.
C'est
donc moi je vous conseille réellement House of Cards qui a été diffusé en France
sur Canal.
La diffusion termine d'ailleurs ce soir la saison 1.
Ce soir quand on enregistre. Donc,
oui, ce soir.
Il
oui,
y a quelques semaines. Soir, quand vous...
voilà. Il y a un mois.
Voilà.
Donc, probablement au moment où ce podcast sera diffusé, les DVD sont sortis en France puisque ça sort le 28 octobre 2013 en DVD. Donc
ça fait quelques jours à peine.
Voilà, ruez-vous dessus. À mon avis. Bon, il faut quand même aimer. Attention, hein, c'est pas une série pour tout le monde. C'est clair. Il faut aimer les séries où ça parle beaucoup, où il y a pas, enfin, c'est pas une série d'action, hein. C'est pas.
C'est un petit peu dans la veine des. En fait, Netflix a produit cette série en voulant copier ce que font HBO et AMC aujourd'hui et Showtime. Mmh. Donc c'est un petit peu. Bon, c'est pas une série d'action, mais c'est un petit peu dans la veine des séries HBO de qualité qu'on connaît, quoi. Donc je pense que si vous êtes fan de grandes séries presque de cinéma, c'est quelque chose que vous pourrez apprécier, quoi.
Ouais, clairement. Clairement, si vous aimez les personnages cyniques, vous allez vous régaler.
Ok, voilà. Eh ben écoute, merci.
Juste pour précision, Fincher a réalisé que les deux premiers. Hein. Il est producteur, mais il a réalisé que les deux premiers.
Mais on sent quand même sa patte malgré tout.
Bah, c'est pas le showrunner, Fincher ?
C'est le showrunner sur la saison 1, il sera pas sur la saison 2.
D'accord. Oui, donc le showrunner, c'est un petit peu sur les séries, c'est la personne qui gère la série. C'est presque le réalisateur, producteur, auteur d'une série, le showrunner. Donc bon.
C'est le chef d'orchestre.
C'est ça.
Exactement.
Voilà, donc House of Cards, ruez-vous sur le DVD. On va donc conclure l'émission maintenant en faisant quoi ? En demandant à Christophe de nous dire où on peut le retrouver sur Internet.
Eh bien, vous pouvez me retrouver en compagnie de mes camarades, dont William, dans l'émission WAC, anciennement Will & Co. Toutes les semaines, voilà, nous reprenons toutes les semaines maintenant l'émission. Et puis, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook et par exemple sur Twitter, je suis @cponsole, C-P-O-N-S-O-2-L-E. Je tiens à O-2-L, sinon je ne peux pas voler. Et puis sur Facebook, mon nom, Christophe Ponsole, voilà.
Super.
Et puis sur Google Plus et puis partout ailleurs, voilà.
Partout. Olivier.
Moi, on peut me trouver sur à peu près tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google Plus, Tumblr. J'en passais des meilleurs sous In The Blix, INTHEBLIX. On peut me trouver aussi avec mes talentueux collègues Hervé Quaral et Gilles Dacosta dans le podcast Split Screen. On peut me retrouver aussi avec les truculents Guillaume, Séverine et Elena dans La Voix dans la tête, et aussi à l'écriture sur dailymars.net.
Mais vous êtes partout, les gars. C'est invraisemblable. Moi, je ne suis guère que sur Twitter @notepatrick et c'est tout.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Quelle fausse modestie.
Écoutez, chers auditeurs, on va vous laisser pour deux petites semaines, mais on sera de retour très très vite dans, vous l'aurez deviné, deux petites semaines. Entre-temps, si vous voulez des recommandations d'app pour vos appareils mobiles, vous pouvez aller écouter Upload sur le site French Spin qui héberge mes émissions. Vous pouvez d'ailleurs aussi y laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission-ci ou des suivantes ou des précédentes, hein, c'est possible également. Et quoi qu'il en soit, donc, on se retrouve dans deux petites semaines. Grosse bise, à très vite.
Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Don't walk, stop it, 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 don't walk, stop it